1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. C'est la 16, la 16. Il est l'heure, l'heure.
Il est 19h.
C'est la 16.fr. La 16. Le 19-16, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité charentaise sur la 16.
Bonsoir à tous, c'est Benji, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 19-16. Ce soir, nous allons à la rencontre de maître Cathy Richard, avocat des parties civiles dans le procès Charlie Hebdo. Bonsoir maître.
Oui, bonsoir Basile.
Quelle est votre spécialité?
Je suis avocat spécialiste en droit pénal et je suis très souvent en cour d'assises. Et souvent auprès de parties civiles.
Merci. Première question, comment on se prépare pour un tel procès?
Alors, c'est un procès, en fait, qui est un procès un peu hors norme. D'abord, c'est un énorme dossier. Avant d'être un procès, c'est un dossier qui est colossal. Donc, c'est un dossier qui mérite beaucoup de temps pour savoir exactement comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, quelles personnes sont impliquées. On a aussi toute la procédure qui concerne les différents attentats, l'attentat à Charlie Hebdo, l'attentat d'Hyper Cacher, l'assassinat de la policière qui a eu lieu également par Monsieur Koulibaly. Enfin bon, donc on a un dossier qui est colossal en termes de volume. Déjà.
Le procès, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est ça?
C'est la partie émergée.
Oui.
Si, le procès, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que ça fait déjà 5 ans que des juges d'instruction travaillent sur ce dossier. Et donc, c'est une accumulation de procès-verbaux qui ont été le fait de beaucoup de services de police, hein, services de police antiterroriste, services de police criminelle, et puis des procès-verbaux d'instruction, d'experts. Et quand on termine tout cela, eh ben, on est en face de dizaines de milliers de pages.
D'accord. Oui, on ne s'imagine pas ce que ça peut représenter. Vous avez hésité, vous?
Vous donnez une toute petite idée, le résumé du dossier,
oui.
Qu'on appelle l'ordonnance de mise en accusation, hein, le résumé du dossier fait 400 pages.
Oui, une ramette.
C'est un livre.
C'est un livre, oui. Oui. Vous avez hésité avant d'accepter de défendre dans ce dossier, une partie civile?
Pas une seule seconde.
Pas une seule seconde.
J'ai pas une seule seconde hésité à les défendre. J'ai aucune peur vis-à-vis du terrorisme. J'ai d'autres dossiers de terrorisme. J'ai été face aux terroristes corses dans les 5 dossiers de l'assassinat du préfet Erignac. Je suis actuellement encore dans des dossiers contre des terroristes, dans le dossier de l'assassinat des journalistes de RFI au Mali. J'ai strictement aucun type d'inquiétude. En tout cas, pas suffisamment d'inquiétude pour m'empêcher de faire mon travail.
Oui, les affaires sensibles, c'est un peu votre spécialité ou c'est un choix qui s'est porté?
Les affaires... Non, on ne peut pas dire que j'ai une spécialité dans les affaires sensibles. J'ai des affaires sensibles, je traite d'affaires sensibles. J'ai aussi des affaires tout à fait de proximité, j'allais dire, des affaires qui concernent un petit peu tout le monde. Mais ça ne me fait pas du tout peur d'aller sur de très gros dossiers. Maintenant, j'ai aussi une infrastructure qui me le permet. Dans ce dossier, je travaille notamment avec 2 de mes collaborateurs. Donc c'est certain que, et puis j'ai ensuite d'autres collaborateurs qui sont aussi au cabinet, donc ce qui me permet en réalité de continuer à faire tourner le cabinet, d'être présent aussi sur le procès. C'est certain que ce sont des grosses machines.
C'est pas compliqué de gérer plusieurs dossiers comme ça en même temps. Ça doit être une habitude, mais.
C'est compliqué. Oui.
Comment on s'y retrouve?
De toute façon, ça, même quand on n'a pas de très gros dossiers, on est toujours sur plusieurs dossiers en même temps. Je dois avoir à peu près 1000 dossiers au cabinet ouverts en ce moment. De toute façon, voilà, ça fait 26 ans que j'ai l'habitude de plaider un dossier le matin, un autre dossier l'après-midi, de recevoir des clients en soirée. et chacun me parle de ses problèmes qui portent pas forcément sur la même chose. Ça, après, c'est une gymnastique intellectuelle qui pose pas du tout de difficultés, Dieu merci.
Oui, c'est votre travail, en fin de compte.
Bah oui.
Vous, vous attendez quoi, ou vos clients, de ce procès, du procès Charlie Hebdo?
Dans ce procès, je crois qu'il y avait deux attentes. La première attente, c'était de reparler, entre guillemets, de ce qui s'est passé. On a vu qu'en 2015, tout le monde était Charlie, et puis on a senti que petit à petit, les gens se dégonflaient, on peut dire, pour le moins. Les médias, notamment des journalistes, commençaient à dire « Oh bah oui, mais ils n'auraient pas dû le faire. Oh bah oui, mais on peut comprendre les Kouachi. » Enfin bon, c'était assez nauséabond. Et on se rend compte que, comme d'ailleurs, après le Bataclan, on a applaudi les services de police et qu'aujourd'hui, les services de police, on les conspue, eh bien, de la même manière, un peu tout le monde était Charlie, puis maintenant on commence à dire oh ben non, il faut pas, etc. Donc la première chose, on se rend compte que c'était ce dossier, il est ce procès, c'est un procès historique, on dit, mais c'est aussi un procès pour la mémoire, comme on dit, parce que on a tué des hommes, on a tué des femmes, mais on a tué au nom d'une idéologie, hein, de comme disent les gens de Charlie, une forme de fascisme, le fascisme d'islamisme fanatique. Et ça nous concerne tous. La liberté d'expression et la liberté à proprement parler, ça concerne tout le monde.
Tout à fait.
Donc ça, c'était en cela déjà, c'était quand même très important. Ensuite, il faut savoir que effectivement, les principaux auteurs, que ce soit les frères Kouachi ou Koulibaly, sont morts. Disent-ils en martyr, hein, enfin, qui se dit. Cependant, il était aussi très important de remonter les différentes responsabilités. C'est des individus qui n'ont pas agi seuls. Remonter toutes les responsabilités en prenant en considération l'importance ou non de chaque responsabilité, bah, c'était aussi faire œuvre de justice. Donc, pour les deux raisons, notamment que je viens de citer, le procès était attendu. Alors, il était aussi appréhendé, bien évidemment, parce que c'est un procès qui est très difficile. Hein, il faut.
Oui, parce que c'est médiatique déjà.
Alors, c'est un procès. Alors déjà, c'est un procès qui est difficile parce que le deuil, c'est quelque chose de très personnel, de très privé, d'intime. Et là, le côté historique et médiatique du dossier dépouille un peu les parties civiles de cette intimité. Donc c'est un procès qu'ils ont eu du mal pour certains à s'approprier. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, c'est comme je le disais, c'est une énorme machine. Hein. Il y a 3 salles d'audience plus un auditorium. Qui sont dédiés à ce procès. Il y a plus d'une centaine d'avocats. On voit tout de suite que rien ne va se passer comme d'habitude.
C'est votre plus gros procès ?
Et en termes de durée, oui. Et surtout en termes de nombre de personnes présentes. Parce que je le disais, on se retrouve dans une machine dans laquelle le président instruit, pose des questions, ensuite il va demander aux parties civiles qui sont présents dans la salle. Alors dans la salle où il y a la cour, donc on dit la salle 2-2. Alors dans la 2-0-2, est-ce qu'il y a des questions des parties civiles? Puis ensuite, il va s'adresser à la visio en disant est-ce qu'en salle 2-0-3 il y a des questions? Est-ce qu'en salle 2-0-4 il y a des questions? On se rend bien compte que c'est quand même ça, plus, j'allais dire, les masques, tout ça, c'est un peu, il y a un petit côté un peu surréaliste et puis, j'allais dire, malheureusement, de déshumanisation un peu de la justice quand même. Voilà. Ça, c'est un petit peu particulier quand même. Voilà.
C'est dur de plaider, je pense, avec le masque.
Alors ça, c'est pas difficile. C'est pas seulement pour nous, pour plaider, mais c'est aussi écouter les témoins, écouter les parties, écouter les, que ce soit les accusés, les parties civiles, les victimes.
Tout le monde parle dans sa barbe, c'est ça, c'est tout le monde parle dans sa barbe.
On ne comprend pas bien. Et puis ensuite, on perd la moitié de l'expression des gens.
Oui.
C'est terrible de ne pas pouvoir voir les visages. On entend les voix éventuellement qui vibrent. On voit parfois les gens pleurer, mais on perd la moitié des expressions. Donc c'est un immense regret. En ça aussi, ça aurait été un procès hors norme. Parce que, bon, on a espéré un moment que celui qui s'exprime pouvait baisser son masque. On nous l'a laissé faire 2 jours et après on nous a dit non, il faut remettre les masques.
Oui.
Il faut reconnaître que ça, moi, franchement, je trouve que ça tue une partie de l'humanité des débats, hein, ça c'est certain.
Oui, parce que l'expression du visage, c'est très important.
Et puis je pense...
Extrêmement important.
Oui, on veut toujours voir l'accusé, on veut voir les parties civiles, on veut voir les avocats aussi. Quand vous plaidez, vous avez vraiment les expressions du visage.
Tout à fait. Et puis même quand on... Et puis les magistrats, je veux dire, là, on n'est pas devant une cour d'assises classique, hein, mais ça, je sais que j'ai d'autres dossiers d'assises où on va se retrouver, et j'ai déjà plaidé des dossiers d'assises devant des jurés masqués.
Ouais.
Super désagréable. Hein. Là, c'est une cour d'assises spéciale, puisque c'est une cour d'assises terreau, donc il n'y a pas de juré tiré au sort de la population, il n'y a que des magistrats professionnels. Mais c'est pareil, quand on plaide, là, on n'en est pas aux plaidoiries, hein, mais quand on plaide, c'est important de voir le visage des gens auxquels on parle. Et pour les gens qui viennent témoigner, là, pour, je le disais, les témoins, les victimes, les parties civiles, c'est quand même, c'est très gênant de ne pas pouvoir vraiment voir les gens à qui on parle. Puis il y a 2 magistrats qui rapportent. Souvent, on ne voit pas forcément qui parle. Parfois,
oui.
on a du mal, on met un moment à se dire, mais qui est-ce qui est en train de parler en ce moment? Parce qu'on ne voit pas les lèvres bouger, donc c'est très... c'est pas particulier. C'est pas particulier à ce procès, mais c'est vrai que c'est très désagréable.
Ouais,
alors ensuite, ce qui est particulier à ce procès, c'est, je veux dire, honnêtement, d'abord, c'est le niveau d'élaboration aussi des gens qui vont venir témoigner, qui s'expriment remarquablement bien pour la plupart, qui exposent très très bien tout ce qu'ils ont vécu, tout ce que ça représente. Et ça, on a des débats qui sont très rares en élévation intellectuelle, spirituelle, j'allais dire. Oui,
c'est la sérénité des débats ils sont sereins, les débats.
Il n'y a pas d'incident pour l'instant, pas d'incident énorme. Mais ce qui est assez normal, puisque on n'a pas pour l'instant du tout de défense de rupture de la part des accusés, bon, à part un qui s'excite un peu, mais on a quand même des accusés qui disent tous qu'ils sont complètement étrangers aux faits. Donc on a des accusés qui abondent dans le sens des victimes en disant oh là là, c'est terrible ce qu'ils ont vécu, vraiment, on trouve que c'est tellement horrible. Enfin bon, voilà. Donc.
Il y a de la sincérité dans ce qu'ils disent ?
Ah ben moi, après, je ne sonde pas les âmes et les cœurs. Hein.
Ouais. Oui, les faits, uniquement les faits.
Quand on leur donne la parole, ben justement, voilà, dans les faits, on voit que, par exemple, certains ont, là encore, peu de facultés d'élaboration, certains en ont beaucoup, savent faire un grand discours. Donc, on peut voir aussi le type de personnage qui est derrière ce type de discours, qu'on croit ou pas son discours, voilà. Après, il y en a qui sont, notamment, qui s'est vraiment approprié les parties civiles en les appelant par leur prénom, en pontifiant très longtemps, à voix vraiment très posée, en parlant lentement, longtemps. Bon, ça avait fait réagir une des avocates des parties civiles. Bon, moi, je pense que on est là pour parler de liberté d'expression.
Oui.
C'est évident qu'on va laisser les accusés s'exprimer, mais après, à la cour d'en tirer les conséquences que de droit, je veux dire. Voilà. Mais c'est vrai que on peut comprendre aussi que pour les parties civiles, pour les victimes directes, s'entendre appeler par son prénom et s'entendre se faire approprier par la défense, par les accusés, c'est quand même assez compliqué.
Ouais, j'imagine. Comment fait-on quand on est avocat pour défendre un accusé ou une partie civile ? Si ça avait été un des accusés du procès, vous auriez accepté ?
Alors, ça, c'est la bouteille à l'encre et la question.
Oui.
marronnier qu'on me pose toujours. Je peux défendre n'importe quel type de fait,
oui.
Mais pas forcément n'importe qui. C'est-à-dire que mon vrai positionnement n'est pas par rapport à ce qu'on reproche à la personne, mais comment la personne choisit de se défendre. Voilà. Donc, après, je peux absolument pas répondre à ce type de question. C'est pas le fait que quelqu'un soit poursuivi pour avoir participé aux faits de Charlie Hebdo, de l'hypercacher, etc. La question qui se serait posée, c'est quel positionnement cette personne a par rapport à ce qu'on lui reproche. Est-ce que je pense ou pas qu'il y a suffisamment de raisons de penser qu'effectivement il les a commis, qu'il les nie. Est-ce que je crois qu'effectivement il peut ne pas les avoir commis. Et dans ces cas-là, c'est terrible d'être accusé comme ça. Est-ce que si je pense qu'il les a commis, est-ce qu'il les reconnaît? Est-ce qu'il a une attitude qui me correspond, qui me correspond viscéralement? Ou est-ce que je me sens pas capable de le suivre dans son système de défense? Voilà, c'est je vais.
Vous avez déjà refusé des clients à cause de leur système de défense?
Bien sûr, oui, ça oui, bien sûr.
Ça arrive souvent ou non, ou c'est?
Non, pas si souvent que ça, parce qu'en réalité, si je les suis pas dans leur système de défense, en général, c'est aussi parce que c'est un système de défense débile.
Oui.
Souvent, quand ils comprennent que ça me convient pas mais que ça me convient pas parce qu'aussi on va s'en plafonner un mur et que je trouve que c'est pas intelligent.
Oui, le but c'est de quelqu'un qui est accusé, qui a vraiment commis le crime, le but c'est qu'il fasse le moins possible de prison ou mais bon, il c'est sûr qu'il
oui. C'est pas forcément qu'il fasse le moins possible, c'est que la peine elle soit adaptée. Voilà, c'est ce que j'explique toujours. Il vaut mieux quelqu'un, la même personne, si elle prend 10 ans et qu'elle a eu l'impression d'avoir été mal défendue, mal comprise, pas écoutée, pas respectée à l'audience, ça va partir faire ses 10 ans en révolte et va gâcher sa vie sur ses 10 ans. Voilà. Alors que la même personne pourrait très bien se prendre 12, ce qui pourrait être plus, mais si l'audience se passe bien, que cette personne a eu l'impression d'avoir été défendue, entendue, écoutée, respectée, dans ces cas-là, la détention se passera beaucoup mieux, la peine sera acceptée. L'acceptation de la peine, c'est très important. Hein. Et donc, notamment dans mon choix de défendre quelqu'un, il y a aussi l'idée de le défendre le mieux possible. C'est pas seulement qu'il est le moins possible, c'est le fait que la peine soit adaptée à ce qu'il a fait et à ce qu'il est. Il faut aussi dire que si j'interviens en défense régulièrement, je suis très très souvent partie civile. J'interviens la plupart du temps aux côtés des victimes.
Oui, c'est plus intéressant.
C'est l'humain qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est défendre la personne humaine, donc ça va pas être de justifier des faits ou de... Voilà, donc ce que je pourrais dire sur ce procès, c'est qu'il y a des moments très très forts dans ce procès, et que comme type de moments forts, je pourrais décrire des moments très forts parce que très violents, voilà, il y a eu des moments de très grande violence psychologique et de très grande violence par l'image. On a vu des images, on a vu des images de la scène de crime, on a vu des images des faits, et ça a été des moments très violents. Il y a eu des moments qui ont été des moments très forts émotionnellement, lorsqu'on a entendu parler les survivants, hein, lorsqu'on a entendu parler les survivants, lorsqu'on a entendu les familles des victimes disparues, c'était des moments très forts émotionnellement. Et puis il y avait des moments très forts intellectuellement, lorsqu'on était face à des gens qui savaient nous expliquer que la liberté était très importante, que la liberté valait parfois qu'on meure, même si il était incompréhensible et inadmissible qu'il y ait des gens qui tuent contre cette liberté.
Eh bien, ça va être le mot de la fin. C'est très bien dit. On peut vous souhaiter quoi pour ce procès?
La force, du courage, de l'inspiration, voilà. Que tout se passe bien et pas de Covid.
Et pas de Covid. Il y aura un après-procès, un avant et un après-procès?
Moi, je pense que... Alors, pour moi, l'après-procès, il va être simple. Hein. J'attaque juste derrière les violences urbaines, les tentatives d'homicide sur les agents de la, les fonctionnaires de police et de gendarmerie dans le cadre de l'après-mort d'Adama Traoré. Donc, je continuerai sur une autre grosse affaire
Ah,
d'assises.
oui,
En
c'est
ce qui
possible.
concerne, ce dossier Charlie Hebdo, Hyper Cacher en particulier, eh bien, je crains que de toute façon, il y ait un deuxième tour.
Oui, un appel, oui, il y aura appel et voire cassation plus tard.
Tout ce qu'on fait, on peut penser qu'il y a un gros risque pour qu'on doive le refaire.
Et ça sera la même taille de procès dans ce cas-là?
Probablement. Il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que je trouve
Oui.
extrêmement importante, mais extrêmement importante, c'est que ce dossier, enfin ce procès, vraiment, ce procès est filmé pour l'histoire.
Oui.
C'est une très bonne chose qu'il soit filmé. En revanche, c'est vrai que le fait qu'il soit filmé pour l'histoire signifie que pendant 50 ans, on ne pourra pas visionner ces images. Et moi, je pense, j'espère pouvoir militer, pouvoir intervenir pour que tout de suite, rapidement, il y ait une partie de ce procès qui soit tout de suite montée et qui soit diffusée d'ores et déjà dans les écoles, les collèges, les lycées. Je pense qu'il y a une immense partie de ce procès dont on a besoin dès aujourd'hui dans la société. Il y a des choses qu'on a besoin d'entendre dès aujourd'hui dans cette société pour éviter que cette liberté, on la perde, face notamment à une forme de fascisme islamique.
Tout à fait, oui, parce que dans 50 ans, on sera plus beaucoup auront oublié, ou peut-être pas tout le monde, mais. Donc, c'est oui, effectivement, bah, on vous aidera à plaider pour, à soutenir, et puis s'il y a des pétitions, on les fera. On les écrira. Nous, on est tous les engagements sur la 16. Merci beaucoup, maître, de nous avoir consacré un petit peu de votre temps, même beaucoup de votre temps. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée, et à très bientôt.
Merci vous aussi, au revoir.
Le 19-16, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité charentaise, le dimanche à 19h.
C'était le 19-16, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée et à bientôt.